Alors, Madame Saadi, pour le versement de diverses subventions, vous pouvez faire court, Madame.
Oui, je vais faire raccourcir.
Merci.
Première partie sur le contrat de ville. Donc, il s'agit de la troisième programmation. C'est 5 projets pour un montant de 13 500 euros. Le deuxième point concerne le renforcement de la ligne de crédit que nous avions établie pour les copropriétaires en difficulté suivis par le programme d'accompagnement des copropriétés en difficulté à Borny. Nous l'abondons de 54 000 euros, à savoir que la première dotation, 90 000 euros, n'a pas encore été utilisée à ce jour, mais nous l'abondons aujourd'hui car nous avons fait des travaux très importants sur Bénardette d'un montant de 325 000 euros. À charge, il faut déduire 50 % et donc les propriétaires doivent payer 50 %. Donc nous avons fait cette ligne de crédit pour leur permettre de payer ces travaux et d'autres qui sont à venir. Et le troisième point concerne le projet d'innovation sociale pour l'intégration de la population temporaire logée rue L'Huile Le Débonnaire. Je laisserai M. Raphaël Pissi développer ce sujet. Il s'agit de 3 subventions, 19 900 euros, 4 900 euros et 5 200 euros. La motion est en conséquence.
Monsieur, peut-être pour intervenir à ce point, docteur.
Oui, si vous le permettez, j'interviendrai aussi sur un deuxième point qui est celui des réfugiés, si vous le permettez, monsieur le maire. Il est certain que nous pouvons être satisfaits de voir aboutir le projet de réinsertion de la communauté rome qui a choisi de vivre sur notre commune, et cela grâce à une coopération qui associe la ville, l'État, la Fondation Abbé Pierre et avec la participation d'autres associations. Cependant, on ne peut pas se satisfaire de la manière dont sont traités les demandeurs d'asile, et cela depuis des mois, alors même que l'on assiste enfin au démantèlement de la jungle de Calais, qui était une honte pitoyable pour notre pays. Depuis 2 ans que j'ai la responsabilité que vous m'avez confiée, j'ai toujours eu une fin de non-recevoir de la part de la préfecture sur toutes les propositions que nous avons faites à propos des réfugiés et des demandeurs d'asile, au point qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un rapport de force qui est insupportable quand il s'agit simplement de donner de l'eau et des toilettes à une population qui est dans la rue et de mettre les enfants en sécurité dans une école avec un repas chaud et de les vacciner. La date du 15 novembre que l'on vous a fixée comme étant celle du démantèlement, monsieur le maire, est une date obligatoire. En vérité, nous sommes berné en permanence par le préfet. La date du 15 novembre est la date obligatoire d'hivernage des populations qui sont en situation de détresse. Sur les 4200 places d'hébergement en Lorraine, nous sommes la troisième région après l'Île-de-France et le Nord à recevoir le plus de réfugiés. 70 % de ces places sont occupées par des personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire et qui pourtant restent dans ces logements, bien qu'ils perdent en même temps l'allocation journalière qui leur est donnée. Cela les plonge dans la misère, et c'est là, monsieur le maire, que se situe l'appel d'air. Ce qui veut dire que venir en France, c'est y rester, soit de manière régulière, soit de manière irrégulière. Avec toutes les conséquences que cela entraîne, trafic, travail au noir, etc. Nous avons proposé, et cela depuis 2 ans, avec toujours une fin de non-recevoir, la mise en place d'un centre d'accueil transitoire, alternative à la rue, en attente d'hébergement, en suivant en cela les normes de l'UHCR, afin que cette population soit sécurisée, à charge à une association d'être missionnée pour assurer la coordination de l'aide avec tous les intervenants associatifs. Il existe dans ce problème 2 aspects qu'il ne faut pas mélanger. D'un côté, l'aspect de politique nationale du droit d'asile, avec des restrictions venant des personnes qui viennent des Balkans. Pourquoi ne pas instaurer un visa pour eux, obligatoire? Et là, nous avons des députés pour aborder cette problématique au sein du Parlement. Et d'un autre côté, il y a un aspect humanitaire pour ces personnes qui aujourd'hui arrivent. Et quelles que soient, monsieur le maire, les raisons pour lesquelles elles viennent, même fût-il pour des raisons d'aventure, car cette aventure-là, c'est celle de l'aventure pour fuir la misère. Et nous avons à les recevoir dans la dignité et dans le respect que l'on doit à tout être humain, surtout dans un pays, la France, notre pays, qui se veut la patrie des droits de l'homme. Je vous remercie.
Merci, docteur. C'est un bon complément à ce qui a été échangé tout à l'heure sur le sujet. Et je considère que c'est bien compliqué de prendre l'initiative quand nous n'avons pas à prendre l'initiative. Et c'est vrai que nous sommes dans une sorte de rapport de force avec la préfecture. Hein. Vous avez raison, c'est même 4200 places, d'après ce qu'il m'a dit le préfet, dans le département de la Moselle. De la Moselle, pas de la Lorraine, de la Moselle. Et avec une forte densité dans l'agglomération Messine, plus de 60% dans l'agglomération Messine. En réalité, le travail des services de l'État n'est pas suffisant en ce qui concerne la répartition sur le territoire de ces personnes. Et c'est la raison, parce que c'est le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est la fameuse PADA. Vous savez comment ça marche. À partir du moment où on attend devant la PADA, on met la tente tout près. On a déjà eu ça au Pontifroid, on a déjà eu ça à Bellecroix, on a eu ça à Avenue de Bida, et c'est notre problème. Alors, je ne veux pas me défausser. Hein. On voit bien d'ailleurs que pour la Mousse, nous avons pris des initiatives avec plutôt des réserves de l'État. C'est nous qui avons été en avant par rapport à la population rom, que je ne confonds pas. Personne ne confond ici la population rom et l'installation qui est actuellement rue Louis le Débonnaire et qui comprend une quarantaine de personnes, qui a été largement organisée par la ville de Metz sous la responsabilité du conseiller délégué Raphaël Pitti. Comme ça que ça s'est passé. Mais croyez pas que ce soit simple. Hein, et il y a des gens qui d'ailleurs m'interpellent, nous interpellent, comme si c'était des demandeurs d'asile, alors qu'il s'agit tout simplement de citoyens européens d'un pays libre et indépendant qui s'appelle la Roumanie et qui ont décidé de venir travailler en quêtant ici aux portes des églises ou un peu partout en considérant que c'est ça leur métier. Et il y a des jeunes gens là-dedans qui ne sont pas scolarisés, alors on y arrive petit à petit, hein, on y arrive petit à petit, c'est pareil, l'eau, l'école, tout ce qui fait partie des choses, parce que ceux-là, ils sont installés. Et ils ne sont pas installés provisoirement, ils sont installés pour rester, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Je rappelle qu'auparavant, je reviens sur la Mousse, là, auparavant, ils étaient dans le trèfle de l'autoroute, là, à Metz-Nord, hein, dans des conditions absolument épouvantables, hein, et ils venaient tous les jours en ville pour quêter, pour positionner les voitures, place Jean-Paul II, etc. Voilà la situation, et voilà comment nous fonctionnons avec nos petits bras et des gens qui nous interpellent. Vous avez vu tout à l'heure la violence avec laquelle on est interpellé. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, mais je pense que interpeller des gens qui sont ici, qui font énormément, et qui font bien au-delà de ce qui est normalement de notre ressort direct, hein, c'est se tromper de cible. Je le dis ici, je le répète, c'est se tromper de cible. Même si j'ai conscience que le rôle de l'État n'est pas simple. Mais en même temps, l'État, il doit comprendre que la situation n'est pas satisfaisante vue de Metz. Elle n'est pas satisfaisante. Pour des raisons de densité, d'encombrement, d'espèce de paralysie, par rapport à la nécessité, et ce qui s'est passé à Calais, ça a été organisé sur tout le territoire. On a vu des maires protester contre l'arrivée de gens qui sont bel et bien des demandeurs d'asile, alors que les gens qui arrivent d'Albanie et de Kosovo, je vous rappelle qu'ils sont dans des pays qui viennent sans passeport, hein, ils arrivent comme ça uniquement avec la carte d'identité, il n'y a pas besoin de visa, hein, et donc c'est des situations qui sont en grande majorité des situations où ils seront reconduits à la frontière, tôt ou tard. Seulement, il y a toutes les procédures avec des appels. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a énormément de gens qui s'abritent derrière la psychiatrie, par exemple. Vous avez des certificats de fragilité psychiatrique qui tombent comme à gravelotte en ce moment. De gens, il y a des médecins qui signent en disant « Attention, c'est fragile. C'est fragile, il faut des soins. » Et donc, on a des problèmes compliqués. Enfin, je ne suis pas expert, mais c'est ce qu'on me dit. Hein, et effectivement, le vrai sujet, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est la rotation. C'est la rotation parce qu'il devrait y avoir des places qui devraient se libérer parmi ces 4200 places qui existent en Moselle, de façon à ce que régulièrement la vingtaine qui arrive, la vingtaine ou la trentaine qui arrive par jour, parce qu'en fait c'est ça, hein, trouve, il faut qu'il y ait un rythme de... Voilà, voilà ce que je peux dire. J'ai énormément d'inscrits. Alors, il y a Mme Zimmermann qui était inscrite, Madame, M. Van Ning, Mme Colin-Sterlet, M. Ourlot, Monsieur Petit, si vous reparlez, Madame Séguir, Madame de Oliveira et Madame Sallustier. Alors, Madame Zimmermann.
Oui, Monsieur le maire, moi je vais être assez rapide et très claire sur ce dossier. Je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on est arrivé à une dose de saturation au niveau de l'arrivée de ces migrants. Et malheureusement, je crois que nous n'avons plus la capacité aujourd'hui de pouvoir les accueillir, comme l'a très justement dit le docteur Pitti, nous ne pouvons plus les accueillir dignement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce que il y a le problème des migrants, il y a le problème également des associations. Et aujourd'hui, les associations sont complètement débordées. Elles sont débordées, je les ai vues pour certaines, j'ai rencontré des responsables des relais qui aujourd'hui frappent à toutes les portes, et ce qui est normal. Et je crois quelque part que il y a sans aucun doute, certes, un accueil, moi je veux bien, sauf que il faut être clair, on ne peut plus aujourd'hui en Moselle accueillir des migrants, et d'autre part, en sachant que ces migrants, la plupart du temps, on nous dit ce sont les Syriens. Non, ce ne sont pas les Syriens. Ce sont des Érythréens, ce sont des populations. Alors, non, il y a effectivement ceux de l'Europe de l'Est qui posent un problème parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de papier pour venir, et eux posent un réel problème d'adaptation également. Parce que la plupart du temps, lorsque vous regardez aujourd'hui le démantèlement de Calais, bon, écoutez, excusez-moi, mais vous regardez les gens qui étaient dans les bus, ce ne sont que des jeunes hommes. Et là-dessus, il y a aussi un travail à faire pour les associations. Et je crois vraiment que par rapport à notre population, parce que ce rapport, malheureusement, il mélange deux choses. Il mélange à la fois toute la politique de la ville, où moi, ce que je réclame, et ce que Nathalie Collin-Osterlé, ce que Yves Wendling ont réclamé depuis des années, je réclame aujourd'hui vraiment quelque part un conseil municipal où on nous donne le rendu de ce qui est fait. Parce que moi je veux bien continuer à voter des crédits, mais à un moment, vous savez, les gens, quand ils ne le sentent pas eux-mêmes, et vous avez aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, il y a une montée de la précarité, une montée de la pauvreté à Metz, et en plus, parce que les uns comme les autres, ben, nous allons à la rencontre des Messins, et les Messins ne comprennent plus que, à la fois, eux sont dans des situations où il y a des problématiques de logement, où il y a des problématiques simplement de nourriture, simplement d'achat de nourriture, et le CCAS, et je le sais, est débordé par les demandes, mais parallèlement, on continue à accueillir des migrants. Moi, je crois qu'à un moment donné, monsieur le maire, il faut, vous aurez mon soutien si vous le faites, il faut à un moment donné dire stop, stop. Et il y a une autre chose, parce que moi je suis fatiguée aussi d'entendre les gens nous faire des leçons en disant il faut les accueillir, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok, sauf que je sais, monsieur le maire, que parce que vous le dites suffisamment, vous en avez accueilli, mais simplement, aujourd'hui, il y a une disproportion entre les Français. Alors, s'il vous plaît, hein, quand je dis les Français, c'est-à-dire vraiment nos Messins qui ont des problèmes de pauvreté, et les migrants qu'on accueille, ce qui se passe avenue de Blida, C'est intolérable. Et quand le préfet donne la date du 15 novembre, comme dit le docteur Pitti, non mais attendez, on ne va quand même pas le remercier. Parce que ce qu'il a fait de changer de 200 mètres, excusez-moi, il ne remplit pas son rôle. Et c'est totalement intolérable. Donc moi, je souhaiterais qu'il y ait un vote séparé. Pour moi, c'est clair, il y a tout ce qui concerne l'ensemble des votes par rapport à la population messine, où il y a un constat de montée de la pauvreté et où, effectivement, il faut accompagner. Et puis, le reste, où, éventuellement, moi, je suis quand même assez, réticente à continuer à accueillir des populations qui ne s'adaptent pas aujourd'hui au territoire dans lequel ils viennent. Et ça, ça devient intolérable. Merci beaucoup.
Oui, monsieur le maire, je n'interviendrai pas sur la première partie du rapport sur la politique de la ville. Je voulais intervenir sur effectivement la gestion de la population rome, mais la deuxième partie du point, en fait. Deux choses en préambule. La première, c'est que je sais par expérience personnelle qu'en matière sociale, c'est sans doute la population la plus difficile à gérer, pour un tas de raisons. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut s'occuper de ce problème parce qu'on ne peut pas laisser, certes des adultes, mais on ne peut surtout pas laisser des enfants à Metz, dans la rue, comme on les voyait effectivement avant près de la sortie d'autoroute, avec des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas soignés et à qui il manque, j'allais dire, le minimum vital. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Raphaël Pitti. Il a fait le choix, je comprends, de ne pas vouloir les mettre dans des logements conventionnels, comme on le fait pour les autres populations, que ce soit d'ailleurs les demandeurs d'asile ou autres, mais dans une sorte de sas entre la situation précédente et peut-être en allant un jour vers un logement entre guillemets normal, en aménageant effectivement près de la rue Louis-Desbonnaires cette habitation. Moi, à titre personnel, hein, mais c'est encore une fois, je lui fais confiance, il s'en occupe beaucoup. Je ne sais pas si c'est le bon choix. Est-ce qu'il faut effectivement s'adapter à ce point-là, à cette population, ou est-ce qu'il faut plus l'encadrer? J'en sais rien, on verra bien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, et puis le point aujourd'hui, effectivement, consiste un peu à demander le soutien d'associations, et d'une certaine manière, j'imagine, à terme, à transférer la gestion au milieu associatif, qui en a l'habitude, c'est des associations un peu spécialisées. Et je crois qu'il faut être, dans tous les cas, mais je pense qu'il l'est, extrêmement clair et extrêmement intransigeant sur le fait que les enfants doivent être scolarisés et suivis médicalement, que cette situation de logement ne peut être que provisoire. Je rappelle tout à l'heure, effectivement, monsieur le maire, vous disiez, ce sont des gens effectivement, qui viennent de Roumanie, qui choisissent de venir, sauf qu'ils habitent quand même. Ils ont une utilisation illégale du domaine public. Donc ils sont pas non plus tout à fait dans leur bon droit. Donc je veux dire, on peut tolérer cette situation effectivement à partir du moment où elle n'est que provisoire. Et effectivement, avec un contrat, et c'est un peu l'idée de Raphaël Pitti, en leur mettant un contrat en main, si de leur côté ils ne remplissent pas leur part du contrat, eh bien à ce moment-là, on les aide plus, ils repartent. Et voilà, parce qu'il ne faudrait pas non plus, j'allais dire, si on s'adapte trop, le risque, c'est effectivement, pour le coup, de créer un appel, comme on dit, un appel d'air, effectivement, que d'autres viennent, voilà. Donc ça, je voudrais juste un petit point de précision sur Blida, sur les réfugiés. Le 15 novembre, c'est effectivement la date où il y a une obligation, à partir du moment où ce sont des familles, ou c'est des enfants, ou des personnes malades, ils ont une obligation d'être logés par l'État. Alors les hommes seuls, eux, il pourrait rester encore à la rigueur dehors à partir du 15 novembre, mais c'est vrai que je crois qu'Abdi Blida, c'est essentiellement des familles. Vous avez raison, on a à Metz une concentration importante parce qu'on est à la frontière. Forcément, le passeur qui venait, il n'allait pas traverser toute la France pour aller déposer ces gens. Et il s'arrêtait à Metz parce que c'est à Metz, effectivement, qui a les services. L'ARS, c'était Place Saint-Thiébaut qu'on les déposait. Ils allaient à l'ARS, à l'ouverture de l'ARS. Et après, ils allaient effectivement dans les autres centres. Donc, on a une concentration et l'État n'a pas joué son rôle. Là, vous avez raison. Il aurait dû les répartir sur le territoire depuis longtemps, dès leur arrivée, parce que dans tous ces problèmes sociaux, quand vous avez 50 personnes à gérer, c'est facile. Quand vous en avez 500, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas eu cette répartition. Évidemment, personne n'en veut, mais il fallait que l'État l'impose. Et le problème, effectivement, je rejoins Raphaël Pitti, c'est pas une, d'ailleurs, c'est pas, la ville n'a pas le droit de s'occuper de gens qui sont demandeurs d'asile. Légalement, le CCAS n'a pas le droit de s'occuper des demandeurs d'asile. Et c'est à l'État de faire son travail. Et l'État, par son représentant, le préfet, ne fait pas ce qu'il faut depuis des années. Merci.
Oui, monsieur le maire, nous avons eu ce débat au conseil départemental. Nous sommes intervenus tous les deux et pour dire sensiblement ce qui vient d'être dit. Effectivement, tout dépend de ce qu'on appelle un hébergement provisoire, parce que le sujet, il est là. Aujourd'hui, vous parliez de 4 200 places d'hébergement en Moselle. C'est vrai. C'est 70% effectivement de personnes concernées qui sont dans l'agglomération Messine. Mais on a surtout 300 demandeurs déboutés aujourd'hui, qui sont déboutés et qui ne sont pas reconduits dans leur pays. Donc, et qui occupent, j'ai 300 places d'hébergement, pardon, occupées par des personnes qui ont été déboutées et qui ne sont pas reconduites. Donc c'est ça, c'est un vrai sujet, parce que quoi qu'on en dise, le préfet effectivement me disait qu'il y avait des places réservées pour les sans-abri de droit commun, entre guillemets, et pour les réfugiés politiques. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des personnes qui dorment dans la rue, qui sont ce qu'on appelle les sans-abri de droit commun, et qu'on n'arrive plus à héberger parce que les places sont occupées par ceux qui ne sont pas reconduits dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, ceux qui sont à Blida, les Albanais, les Kosovars, on sait pertinemment qu'ils n'auront pas gain de cause. On sait pertinemment que leur demande sera rejetée. Voilà. Alors après, c'est où est-ce qu'on se place, nous, pour un hébergement provisoire, en sachant qu'effectivement, la situation est insoutenable, qu'il y a des enfants, qu'il y a des personnes qui vivent là, dans des conditions insalubres, et que, enfin, moi, ça ne peut pas me laisser indifférent. Je ne pense pas que ça laisse qui que ce soit ici indifférent, et qu'il va falloir trouver une solution. Mais c'est de la responsabilité de l'État. Maintenant, est-ce que nous à Metz, on laisse faire les choses, en attendant que l'État réagisse? Bon, cela dit, alors je n'avais pas pris, je m'étais pas inscrite pour parler de ça, mais pour parler du PACCODE. Donc, je passe un peu de, pas du coq à l'âne, mais enfin bon, voilà, avec la convention de qui est passée avec le CALM porteur, donc, porteur de cette convention. Là, on est en train de remettre de l'argent sur une convention qui a été signée le 26 février 2015. Nous sommes en novembre 2016, il y a eu une réunion. Une réunion. Si, si, ah bah, je peux vous dire. Je suis désolée, madame Saadi, mais je suis obligée de répondre. A priori, le département est un petit peu concerné, ou alors ça veut dire que les réunions se font sans le département qui est signataire, et je préfère pas que vous me disiez ça. Donc, le département est signataire, il y a eu une réunion avec le CALM en début d'été. Donc, moi, je demande ce qu'on fait. C'est-à-dire, on est quand même dans une situation, là aussi, d'urgence. Je sais bien que sur Bernadette, il y a des choses qui se font. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais sur les autres copropriétés, je ne suis pas certaine que le travail soit mené avec suffisamment d'attention et suffisamment de rigueur. Voilà, je le dis comme je le pense. Une réunion en plus de 18 mois, ça me semble plus que léger. Je vous remercie.
Merci, monsieur le maire. Sur le camp des Roms de la rue Louis-Debonnaire, je vous renvoie à l'intervention de ma collègue Françoise Grollet sur le sujet lors du Conseil de juillet dernier, dont vous pourrez retrouver l'intégralité sur le site pour Metz. Moi aussi, je comprends ce que fait le général Pitti, son action, son cœur en bandoulière, et c'est tout le monde là, je veux dire, parce que personne ne peut effectivement rester indifférent à cette misère, à ce qu'on peut voir. Néanmoins, je rappelle que ce sont des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, pour certains, même bien plus, qui sont issus de la communauté européenne, que Nicolae Ceaușescu, l'ancien tyran communiste, est mort le 25 décembre 1989, 27 ans déjà, et qui ne sont donc plus en danger chez eux. Donc les aider, oui, à repartir, dans les meilleures conditions, en accord avec les autorités roumaines. Là, il faut une volonté politique qui nous dépasse, évidemment. J'espère qu'elle va venir bientôt. Donc les aider, oui, mais pour ce départ, parce que pour la plupart, la quasi-totalité, ils n'ont aucune volonté d'insertion. Aucune. Et je vais terminer sur ce sujet en citant ces quelques lignes qui ne sont pas de moi. On a des éléments sur les faits délictueux qui sont quand même commis, je ne dis pas majoritairement, mais enfin avec une très forte présence de noms à consonance roumaine. Alors ce n'est pas que les Roms, c'est des populations roumaines, bulgares, kosovars. Donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il faut les évacuer, expulser, traiter, insérer quand c'est possible. Je pense qu'il y a trop d'arrivées. Et sur le logement, il prend l'exemple, cette personne, on travaille dans un quartier, on arrive à aider ses familles, on leur donne un logement, et puis après, il y en a d'autres qui arrivent, plus pauvres. Donc, à un moment, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas être mauvais républicain, au contraire. Je répète, la personne dit, à un moment, il faut que ça s'arrête. Eh bien, ces lignes, elles ne sont pas de moi, je vous l'ai dit, elles sont, et je les une fois n'est pas coutume, je les partage, elles sont du président de la République, himself, François Hollande, dans son livre « Entretien ». Un président ne devrait pas dire cela. Vous voyez, comme quoi, parfois, je peux me retrouver en accord, même avec le président de la République socialiste. Ensuite, je vais intervenir sur les petits débrouillards, concierges numériques. Chaque collectivité, à son échelon, présente son plan d'action dit numérique. Mais ses bonnes intentions se cantonnent bien souvent à l'abstrait. L'économie dite du numérique est avant tout basée sur la mutation des activités existantes vers l'utilisation des outils informatiques. Si l'accélération de nouveaux métiers, comme leur disparition, s'intensifie, rappelons que l'informatique fait partie de la vie des entreprises, comme de la vie courante depuis plusieurs décennies. La formation à ces métiers se divise en deux catégories principales, l'utilisation des outils, logiciels, matériels, et le développement pour créer ce monde numérique, 3D, site web. En 2016, le gouvernement Hollande a donc décidé de labelliser des formations en lien avec ces métiers sous la forme d'une grande école du numérique. Une belle initiative si les formations proposées ne s'éparpillaient pas autant dans le conceptuel au détriment des besoins réels des entreprises. Vous allez octroyer 5 000 euros de subvention pour une formation dont le coût global s'élève à 200 000 euros et destiné à 15 personnes sur 9 mois. Malheureusement, cette formation de concierge numérique s'attache à un métier dit émergent et destiné à l'embauche dans des structures dont les seuls revenus sont l'argent public via des subventions. Ces métiers émergents dont personne ne peut juger, ni de leur intérêt ni de leur pérennité, risquent d'envoyer encore une fois un nombre important de jeunes sur une voie de garage. À la lecture détaillée de la formation, on se rend compte que ce concept de concierge numérique se résume en fait à une simple formation d'agent d'accueil. De plus, cette formation semble se limiter au tiers-lieu, comme à Metz-Blida, ce qui limite considérablement les possibilités d'embauche à Metz comme ailleurs. C'est tromper ces jeunes, en grande difficulté, des décrocheurs, qui auront peu de débouchés, voire aucun en entreprise. Bien que l'association porteuse du projet avance l'argument que la programmation et la formation au code ne soient qu'une pièce de l'échiquier, ce projet ne semble pas répondre aux défis des métiers liés au numérique. Il aurait été plus intéressant de se diriger vers l'apprentissage du code, comme la majorité des 171 projets déjà labellisés à travers toute la France. Les autres métiers, comme ces concierges numériques, relèvent de l'utilisation de l'outil informatique, chose que n'importe quelle personne en situation de décrochage scolaire ou non est capable de faire. Une simple formation logicielle spécifique peut dispenser sans rentrer dans la virtualisation de métiers potentiels. Alors le reste,
merci.
L'explication de vote.
Merci. Alors, Madame Séguir voulait intervenir ? Madame Séguir.
Alors, Monsieur le maire, à l'heure des discours et des propos de chacun sur la réduction des réalités culturelles et à la fermeture de nos frontières, ici, dans le cadre de ce contrat de ville, on propose en fait aux jeunes médecins d'aller à la découverte des chantiers de solidarité internationale, avec l'accompagnement de l'AMSET, qui est l'Association de la migration, de la solidarité et des échanges pour le développement. Il s'agit ici de voyages solidaires de quelques semaines durant lesquels ils s'engagent activement auprès d'une association locale en participant à la réalisation de leur projet. Les jeunes sont intégrés aussi à la vie du village et ils sont conviés à leur activité. Au travers de ces jours, ils auront donc l'opportunité de découvrir une autre culture, de nouer des liens d'amitié, de vivre une expérience collective durant laquelle les jeunes réaliseront des travaux concrets de solidarité internationale. Alors, Monsieur le maire, ici, c'est une expérience qui donnera à nos jeunes vraiment de faire face à leurs propres responsabilités dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de s'épanouir par des apprentissages personnels et techniques, mais surtout un atout pour leur parcours privé et professionnel. Donc, c'est un dispositif aujourd'hui qui est original en mon sens pour effectivement découvrir les réalités culturelles et sociales économiques à travers une réelle immersion de la société du pays d'accueil. Je vous remercie, Monsieur le maire.
Merci. Pour terminer, Madame Nathalie de Oliveira, puis on se tournera la parole au rapporteur. Madame de Oliveira.
Oui, Monsieur le maire, merci. Je crois qu'un cours d'histoire sur l'immigration aurait été très utile à un certain nombre d'entre nous, simplement pour expliquer que la construction de ce pays et le triptyque républicain qui nous anime ici ce soir, puisque nous sommes tous engagés en politique pour faire vivre ensemble et pour faire bien vivre ensemble, aurait été simplement évidemment utile. Sur la question évidemment de notre implication pour cette quarantaine de personnes installées rue Louis le Débonnaire, c'est une implication évidemment indispensable. Laisser des gens en souffrance sur le banc communal, c'est impensable. Je salue le travail de Raphaël Pitti, le travail aussi important évidemment du CCAS et de tous les acteurs associatifs, certains de vrais experts, pour évidemment amener cette population européenne qui se compte au nombre de 15 millions de personnes dans le monde et qui est présente en France en fait depuis le 11e siècle, est à saluer véritablement. Ça me rappelle simplement une phrase de Sartre, c'était pas le plus drôle, mais qui avait dit que c'est pas à la retraite ou au repos que nous découvrirons les uns les autres, c'est sur la route, c'est au cœur de la ville, c'est au milieu de la foule, simplement pour être homme parmi les hommes. Et ce projet-là, comme celui évidemment des questions et des problèmes que nous avons à solutionner par rapport à la présence d'arrivée de migrants, a rappelé que nous avons eu des années en France d'arrivées massives et sur des chiffres beaucoup plus importants que ce que nous avons à gérer aujourd'hui. Moi, je pense que la France est capable d'accueillir, qu'elle est capable d'accueillir mieux, évidemment. L'opposition l'a rappelé, c'est une responsabilité directe et première de l'État. Nous avons néanmoins toujours, évidemment, répondu. Hein, nous sommes intervenus, les uns et les autres ici, de manière individuelle, y compris vous, Monsieur le maire, à rédiger des lettres et accompagner les gens au séjour. Je pense qu'il faut le dire, nous avons une vocation à accueillir, une vocation à intégrer, une vocation à vivre ensemble. La liberté, l'égalité, la fraternité ont contaminé l'Europe et le monde. Il faut s'en rappeler, ça commence par ce que nous sommes en train de vivre depuis déjà 2008, en tout cas depuis l'année de notre élection, au cœur du monde associatif, au milieu duquel, à l'intérieur duquel nous évoluons, pour évidemment respecter la dignité de chacun, des gens qui sont ici et qui sont nés et leurs aïeuls depuis des siècles, et tous les autres. Merci.
Merci. Alors, j'ai demandé à Mme Saadi de répondre sur PACODE, là, sur le PACODE, et à monsieur, au docteur Pitti de répondre sur la mousse et sur les opérations liées aux Roumains de la rue Louis le Débonnaire. Madame Saadi, s'il vous plaît.
Pas de souci. Concernant les réunions sur le PACODE et surtout le plan de sauvegarde Bernadette, c'est deux réunions par an portées par le préfet, donc qui convoque tous les acteurs autour de la table. Et ces deux réunions par an, nous en avons une au mois de mai, nous en allons avoir une au mois de novembre, et après coup, on va avoir un comité de pilotage sur le PACODE. Mais au-delà des réunions, qui est très institutionnelle, au quotidien, les associations, que ce soit le CALM ou la ville de Metz, on travaille, il y a des réunions régulières avec les locataires. Je peux vous faire un listing. Depuis le mois d'avril, il y a 6 permanences qui ont été tenues par le CALM sur le secteur. Il y a un groupe de travail accompagnement social qui a été mis en place pour qu'on ne loupe pas les personnes, essayer de ne louper aucune personne dans les aides individuelles auxquelles ils pourraient adhérer. Et là, je pense que ça va monter en puissance parce qu'aujourd'hui, ils vont avoir les appels de paiement pour payer les factures et c'est là, aujourd'hui, qu'ils vont venir voir comment ils pourraient régler ce problème. Il y a des avenants qui vont être signés. Le mois prochain, vous allez voir qu'il va y avoir du changement de le PACODE. Certains qui vont sortir, d'autres qui vont rentrer. Donc, c'est aussi le choix de copropriété. Sur la copropriété Bernadette, nous avançons bien. C'est toujours assez long parce que la première réunion de tous les copropriétaires portée par l'administrateur judiciaire depuis 2 ans, c'est une réunion qui est attendue depuis 2 ans, a lieu juste hier. Juste hier, elle a eu juste hier, donc ça fait 2 ans d'attente pour avoir ça. Les comptes ont été déposés, c'est 3 ans de travail, je dois dire, pour déposer tous les comptes, que ce soit le titrage de titres, le titrage sur les titres. Il y a la moitié qui ont été faits, il y a une relance de la part du maire qui avait été faite au mois de juin au notaire et par la préfecture pour qu'on avance sur ce titrage. Ce titrage commence à avancer, les travaux ont été faits, donc ça avance bien. Sur la copropriété, alors excusez-moi, petit problème technique, et donc je ne listerai pas tous les travaux qui ont été faits. Sur la copropriété, Christiane,
Il y a des rendez-vous qui ont été pris. Par exemple, je cite, donc les services de la ville étaient fin septembre avec le calme auprès de, du conseil syndical de cette copropriété. Un rendez-vous avait été pris le 19 septembre avec la DIL et un notaire pour la mise à jour du règlement intérieur, mais cette réunion a été annulée à l'initiative du syndic. C'est un courrier que je viens d'avoir aujourd'hui, mais nos services ont été les voir une semaine après, donc ça ne pose pas de problème. Fontenotte, il y a eu une mise à jour du règlement de copropriété. Ça semble simple de le dire comme ça aujourd'hui. On pense que ça pas, mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est plein de personnes, c'est plein de copropriétaires. Ils sont pas une dizaine. Il y a beaucoup de personnes à mettre autour de la table et à convaincre du bien fondé des choses. Donc, il faut aussi avoir une aspiration positive dans ces débats, même si moi je trouve ça encore toujours trop long et ça sera toujours trop long. Les travaux sont en cours sur l'entrée 25 sur la résidence Fontenotte. L'appel de fonds a été fait. Claude Bernard, il y a donc l'OPA 1, qui est donc les travaux de la réfection de la cage d'escalier et la sécurisation des entrées ont été effectués via l'assurance de l'immeuble. Le calme sollicite un rendez-vous avec le gestionnaire pour faire le point de situation sur les futurs travaux et la situation du café qu'il y a sur le secteur. Voilà, pardon, je vais réduire. Et il y a l'OPA sur Daniel à venir. On vient de rencontrer le syndicat Daniel qui va rentrer dans le PACODE. Et je veux simplement parler aussi de copropriétés qui sont en dehors du PACODE, mais qui nous intéressent aussi. La copropriété Capricorne, où il y a un problème de sécurité sur le secteur. Donc, on essaye de travailler avec eux pour sécuriser les lieux et pouvoir leur permettre de finir leurs travaux. Et il y a la copropriété Borny-Nord, donc où les trois quarts étaient des commerçants et on n'avait pas rentré au PACODE, qui est en grande difficulté. Donc, on va faire un diagnostic action pour mieux coller à la situation que nous avons actuellement sur le secteur.
Merci, madame. Et docteur Petit.
Oui, monsieur le maire, deux choses. Pour ce qui concerne la population rome que nous avons pris en charge, il s'agit d'une population qui représente 15 familles roms. Depuis un an, elle n'a pas augmenté cette population, elle reste relativement fixe, puisque nous interdisons la venue d'autres roms sur le camp. Il y a, bien entendu, un règlement intérieur et il y a un contrat d'insertion qui est signé avec chacun des membres qui sont présents sur le camp. Il s'agit en fait aussi d'une expérimentation qui se porte sur 3 ans. Nous sommes partis du principe qu'il s'agissait d'un bidonville et nous avons bien gardé le terme non pas de camp mais de bidonville pour essayer de faire en sorte de voir quelle est leur vraie volonté d'insertion. Et dans le contrat que nous leur faisons signer, il y a l'obligation de scolarisation des enfants, l'obligation d'apprendre le français, interdit tout délit parce que c'est immédiatement, ils sont exclus du camp du bidonville d'insertion, l'obligation de chercher du travail, et pour cela, il y aura pendant 3 ans un travailleur social à plein temps qui s'occupera d'eux. Je peux dire qu'au bout d'un an, nous avons déjà 2 familles qui travaillent et 1 qui a intégré un logement social. Bien évidemment, la ville de Metz ne prendra pas plus de personnes. Et en accord avec mon collègue adjoint à la sécurité, il est bien entendu que nous ne tolérerons pas la création d'un nouveau bidonville sur le territoire de la commune. Il n'y aura que ce camp d'insertion qui sera là et que lui seul. Il appartiendra de faire en sorte que nous n'aurons pas d'autres. Ce qui veut dire que la ville s'engage dans une solidarité vis-à-vis de cette population, je le rappelle, discriminée, et fortement discriminée pendant la période de Ceausescu. Je rappelle que les nazis ont tué plus de 400 000 d'entre eux. D'accord ? Je rappelle que cette famille et que ces gens sont pour la plupart d'entre eux analphabètes, c'était des journaliers, que le monde a changé, qu'ils n'ont plus de travail dans leur pays, comme ils ne peuvent pas en trouver non plus, puisqu'ils n'ont aucune formation de base, et que la pauvreté chez nous vaut mieux que la pauvreté en Roumanie. Et donc, dans la mesure où ils sont là depuis 10 ans, qu'ils ont une volonté de rester sur le territoire de la ville de Metz, ce ne sont pas des gens qui vagabondent, qui sont nomades entre la Roumanie et la ville de Metz. Ils sont là déjà depuis 10 ans. Il est bon que nous essayions de les intégrer. Et nous allons faire l'expérience de partir de ce principe, partir du bidonville pour les amener à l'intégration. Voilà pour ce qui concerne les Roms. Pour ce qui est alors des réfugiés, je voudrais, si vous me permettez, monsieur le maire, pour ce qui concerne ce que vient de dire M. Grelot, on a là, bien évidemment, la posture que l'on connaît du Front National. Elle n'est pas choquante. Ce sont avec les éléments de langage qui sont ceux du Front National. Pour cela, ça ne me choque pas, même si j'ai à combattre un peu ces éléments de langage. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que depuis 20 ans, ce discours du Front National a perverti sans que on s'en rend compte, d'accord, les hommes politiques et les femmes politiques, de droite comme de gauche. Et si bien qu'on retrouve dans le discours de Mme Zimmermann, sans qu'elle s'en rende compte, les mêmes éléments que ceux du Front national, c'est-à-dire l'incapacité de ces populations à s'intégrer, l'incapacité de ces populations à rester chez nous, impossibilité, etc. Nous devons nous méfier de cela, parce que nous devons nous méfier de cela. Nous devons, pour nous défendre contre le Front national, nous devons nous appuyer essentiellement sur nos valeurs. Nos valeurs sont celles de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité ne joue pas simplement entre que les Français. La fraternité est une fraternité universelle. Je le dis, la lutte contre le Front national ne peut passer que par la prévalence de nos valeurs et la défense de nos valeurs. Je vous remercie.
Merci. Bien. Merci. Merci. Ce débat est un débat qui continuera. Nous avons aujourd'hui donc deux votes. Je vais les faire séparément. Hein. Il y a un premier vote qui concerne tout sauf le point numéro 3, c'est-à-dire le point concernant la mousse, c'est-à-dire une opération où l'État intervient partiellement, mais où nous intervenons d'une façon significative, avec des aides d'associations qui investissent leur argent, l'argent associatif, dans ce camp Louis le Débonnaire. Et après ça, il y a d'autres opérations qui sont plus classiques, dont les petits débrouillards. On va faire un vote séparé. Et puis, après ça, le vote sur l'ensemble, si quelqu'un veut un vote séparé sur le PACOD. Madame Colin Sarlet était partiellement absente pendant la réponse de Madame Saadi. On a répondu d'une façon très complète à vos questions et même très, très complète. Alors, je propose d'abord, on va faire un vote sur les petits débrouillards. Comme ça, y a-t-il des oppositions pour les petits débrouillards ? 1, 2, 3, 4, merci. Y en a-t-il d'autres ? Non, les abstentions, il n'y en a pas. Donc, les petits débrouillards, c'est OK. Maintenant, sur tout le reste du rapport, y compris le PACOD, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc, tout est adopté. Et maintenant, sur la partie numéro 3, hein, ce qu'on appelle la mousse, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, expérimentale sur 3 ans, hein, y a-t-il des oppositions ? 1, 2, 3, 4. Des abstentions, y en a-t-il ? Une abstention. Eh bien, je vous remercie. Tous ces points sont adoptés. Ah non, j'ai fait voter l'ensemble des points. J'ai fait les petits débrouillards. Ah, vous vouliez aussi faire un vote séparé sur les droits de l'homme ? J'aurais dû y penser. Alors, effectivement... Non, mais je n'avais pas vu les œuvres laïques, mais j'ai vu la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Alors, on va continuer à revoter. Vous voulez vous exprimer ?
Oui, mais pas grand-chose.
Non, ce n'est pas la peine de voter simplement, parce que vous avez déjà exprimé là-dessus.
Lutte contre la discrimination. Moi, j'aime bien aussi qu'on parle des devoirs de l'homme, parce que ça, on les oublie toujours. Bon, donc on votera aussi contre cela. Aussi sur
donc la Ligue des droits de l'homme, qui est contre ?
Sur ce point, pas contre la Ligue des droits de l'homme.
D'accord, non, mais contre la subvention. Voilà. Levez la main, s'il vous plaît, que je puisse vous compter. 1, 2, 3, 4. Y en a-t-il d'autres qui sont contre ? Il n'y en a pas. Voilà. Eh bien, les abstentions, il n'y en a pas. Voilà.
Sur le point 3, monsieur le maire, quand même, parce que le général docteur Pitti disait que...
Non, vous avez déjà expliqué...
Il n'y avait pas de délit. Non, mais la Manche, si je ne me trompe pas encore, la Manche dans les lieux affectés au transport public, c'est-à-dire les gares, normalement, c'est un délit encore. Mais même si... On fait semblant que ça n'en est plus un. Et voilà, c'est une petite précision quand même.
Mais je
note aussi que votre majorité n'est plus du tout hollandiste. Voilà, moi c'est dur.
Allez, c'est très bien. Vous avez déjà expliqué votre point de vue. Le vote est clair. Tous les points sont adoptés d'une façon ou d'une autre.